que dans les années 60, il fait partie du groupe des Poveris, donc ce mouvement de l'Arte Povera, qui est dans la lignée du mouvement de l'art contemporain, art conceptuel, et qui privilégie essentiellement les matériaux pauvres pour ses productions artistiques. Donc ça peut être du sable, du bois, du verre, et pour ce qui concerne Pistoletto, d'ailleurs, comme on le sait très bien, beaucoup des chiffons, ça peut être des objets de récupération. Il s'agit aussi de mener, et là on pourrait voir un lien, même si quelque part ils vont s'opposer, me semble-t-il, avec Herman de Vries, c'est-à-dire qu'il va aussi privilégier ce mouvement, les actions pauvres, dans l'idée de donner à voir une production artistique qui invite à une réflexion sur, je dirais, et une réaction à une société productiviste, une société consumériste qui connaît son heure de gloire, en particulier en Italie avec le boom économique, mais pas seulement en Italie, bien sûr. Et donc, il me semble qu'avec ce mouvement auquel appartient et auquel participe Pistoletto, on a déjà un sentiment, un pressentiment de la finitude de notre planète, un sentiment écologique qui est en train de s'imposer. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les premiers, mais disons que quelque chose devient plus visible, devient plus prégnant. Et on peut les considérer en quelque sorte comme les premiers lanceurs d'alerte, les précurseurs, mais toujours par le biais de l'art, d'une certaine urgence environnementale qui va par la suite s'imposer dans nos esprits. Du moins, c'est ma conviction. Donc, ce qui est le plus intéressant, à mon sens, chez les Poveristes, et donc chez Pistoletto en particulier, c'est cette volonté de repartir du bas, de reprise par le bas, au ras du sol, comme je disais, une sorte de retour à l'essentiel, à la matérialité qui caractérise leur mouvement. Et c'est une proposition, leur propulsion est une proposition, le terme a été d'ailleurs cité par mon collègue, minimaliste, qui porte à une sorte d'éloge du négatif. Et cet éloge du négatif s'inscrit évidemment contre le plus, le toujours plus, qui, me semble-t-il, est très caractéristique de notre société contemporaine. Et par ailleurs, les œuvres des artistes pauvéristes, dès le départ, regorgent d'éléments qui sont empruntés à la nature, alors pas toujours, hein, mais quand même assez souvent. On peut penser aux feuilles de pénone, et bien sûr, que tout le monde connaît. On peut penser aux arbres aussi, à l'eau. Parfois même, ils font figurer des animaux. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça serait un petit peu plus dérangeant. En tout cas, c'est un art qui fut, dès le début, défini par un critique d'art, Michael Zonabend, comme un art franciscain. Et c'est d'ailleurs ça qui a attiré mon oreille, mon œil, mon esprit vers Saint-François. C'est-à-dire que cette définition de l'art franciscain nous permet tout de suite de faire résonner, et là il va y avoir quelques redondances, mais assez peu, rassurez-vous, de faire résonner justement les Poveristes avec cet hymne à la création que lance François dans son cantique du Frère Soleil. Hymne à la création et surtout aux éléments de la création. Bon, dans là, je vais pas m'attarder plus longtemps, souligner à nouveau comment et combien il appelle l'eau sa sœur, le feu son frère, et puis aussi l'insistance d'une sœur mère terre qui produit en son temps les fleurs et les herbes. Et donc c'est aussi par ce rapprochement avec une forme de poétique qu'on peut déjà essayer de définir cet art pauvre. Le concept donc de mère nature, je dirais qu'il embrasse une vaste famille qui, ça a été rappelé, accorde un même respect aux êtres, et je dirais même à l'existant, puisque même un caillou peut avoir une certaine importance. Donc non seulement les humains les considérés comme les plus vils, mais aussi la faune, la flore et, comme on le voit ici, les éléments du cosmos que peuvent être l'air, le feu, la terre et l'eau, tous considérés comme des frères et sœurs. C'est une vision qui est audacieuse parce qu'elle est solidaire, et c'est quand même quelque chose d'assez important à une époque où, par exemple, rappelons-nous, la campagne qui s'étend au-delà des enceintes de la ville est considérée, et là je puise chez Le Goff ou chez Dallarin ou chez Jacques Vaucher, est considérée cette campagne comme un milieu hostile. Hein, la forêt, la campagne, c'est le milieu hostile, c'est le milieu menaçant. Et donc, ça va impliquer ce premier hymne à la création, un dépassement, selon moi, d'un certain nombre de préjugés. Donc, cette première production en langue vulgaire italienne, elle s'offre quelque part comme l'expression d'un idéal de vie qui voit donc la totalité de l'existant avec un regard, je dirais, bienveillant et même admiratif. C'est une sorte de retour vers le futur, et je m'en expliquerai sur cette expression, auquel nous invite François et auquel nous invite avec lui Pistoletto, un futur médiévalisant, je dirais, qui va privilégier la simplicité, l'humilité, la pauvreté comme source paradoxale de richesse. Je rappelle que, par exemple, pour les pauvéristes, eh bien, la décharge urbaine était considérée comme la caverne des trésors. Donc, cet art franciscain, il est intéressant aussi en tant qu'il est le renversement des valeurs hiérarchiques, qu'il est, en quelque sorte, une rupture avec cette société du profit que dénonce en son temps François d'Assise et que, quelque part, dénonce aussi Pistoletto aujourd'hui, et surtout en rupture avec une conception anthropique du monde. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Les références au cantique lui-même, d'ailleurs, chez les pauvéristes, elles sont fréquentes. On va avoir des œuvres qui vont faire intervenir des sandales, des robes de bure, et puis aussi une attitude générale qui a d'ailleurs été conceptualisée en quelque sorte par le philosophe italien Giorgio Agamben dans son ouvrage qui s'appelle « De la terre haute pauvreté » et qui fait du message franciscain un modèle de révolution mentale, c'est-à-dire, comme ça a été aussi rappelé, le refus du principe de propriété pour prôner sur la terre un unique droit d'usage qui s'applique aussi à la terre, aux éléments les plus simples, les plus naturels. Qui fait aussi de notre monde un grand réservoir de créatures, pour le dire comme François d'Assise, ou d'éléments, pour le dire d'une façon un peu plus prosaïque, des créatures ou des éléments précieux, mais en dehors de toute valeur marchande. C'est le caillou, c'est le brin d'herbe, c'est le fermisseau, c'est l'oiseau chanté par François d'Assise en son temps, dans le cantique ou dans les légendes qui rapporte sa geste. Alors, Pistoletto, dès le départ, s'inscrit un petit peu dans cette matrice idéologique. Bon, il y a beaucoup d'exemples, on connaît la Vénus au chiffon, mais par exemple, dans cette série qu'il va poursuivre jusqu'aux années quasiment 2000, dans cette série « Caresser les arbres », Pistoletto vraiment nous montre un exemple assez significatif d'une démarche globale qui fait de l'art un moyen, selon lui, d'agir sur le monde, et en particulier par le biais de la nature. Et ici, on a une première dédicace assez nette à François d'Assise, avec ne serait-ce que le titre « Caresser les arbres ». On peut penser aussi aux prêches aux oiseaux, etc., etc. Alors, à partir de la fin des années 90, Pistoletto poursuit dans la voie de la contestation de ce qu'il appelle, je le cite, le progrès tout-puissant. Et il va s'engager en tant qu'artiste aux côtés, d'ailleurs, de penseurs de la décroissance. Et il va être à l'origine de la création d'un lieu qui s'appelle Città dell'Arte, ça se trouve à Biella dans le Piémont italien, et qu'il définit comme une sorte de laboratoire géant pour préparer le monde de demain. Alors on y trouve des musées, des bibliothèques, des bureaux et aussi des ateliers où différents acteurs finalement sont là pour s'employer à repenser le monde par l'art. Tous les domaines de l'activité humaine quasiment sont concernés. Bon, bien évidemment, le travail, l'éducation, l'économie, mais aussi la mode, la nutrition, l'écologie et aussi la question de la spiritualité qui tient beaucoup à cœur à Pistoletto. Donc, il s'agit pour Pistoletto là de construire une sorte de générateur d'énergie créative qui développe des processus de transformation responsables dans les divers secteurs du tissu social. C'est du moins ainsi un peu qu'il le définit. Donc, il a été institué en 98 comme la mise en œuvre concrète de son manifeste qui s'appelle « Projet Art ». par lequel Pistoletto veut véritablement concéder à l'artiste un rôle dans la cité, mettre l'art en relation directe avec l'activité humaine. Bon, cette proposition de faire de l'art, on va dire, un moteur de changement pour la société, c'est pas une conception nouvelle. On peut penser à la période romantique, on peut penser aux avant-gardes, on peut penser aux conceptions de l'art total, bien sûr, wagnérien, mais ça nous rapproche quand même assez marginalement, je dirais, de la démarche de Pistoletto, qui entend plutôt proposer un programme d'action pratique qui pourrait peser sur l'organisation des rapports humains de type économique, sociétaux, politique. Donc, c'est pas une vision totalisante et encore moins totalitaire. Pour Pistoletto, c'est plutôt une invitation universelle, universalisante, à se libérer de certains modèles qui s'imposent à nous, modèles sociaux, modèles économiques, mais même modèles esthétiques, qu'il juge trop contraignants et inefficaces pour inventer ce que lui appelle de ses voeux et qui serait une troisième voie. Alors, cette troisième voie pour Pistoletto, c'est le troisième paradis. Bon, le vocable de tiers, de troisième, va avoir une importance majeure. Et ce troisième paradis, me semble-t-il, c'est d'abord un signe. Bon, je préciserai après qu'il n'y a pas qu'à Assise qu'il a apposé son signe, mais en particulier, évidemment, je me suis intéressée à celui qu'il a dessiné à Assise. Donc en 2003, Pistoletto écrit un manifeste, celui du troisième paradis, et il en dessine le symbole qui est constitué d'une reconfiguration du signe mathématique de l'infini. Donc entre deux cercles représentant l'un la nature et l'autre l'artifice, il a inséré un énorme cercle central qui s'offre comme une sorte de matrice pour la nouvelle humanité, comme un idéal, assurant le déplacement du conflit, pour lui destructeur, dans lequel se trouvent aujourd'hui nature et artifice. Et donc, dans cette optique, va surgir une figure essentielle, c'est une figure à la fois passée, présente, future, c'est celle du jardin. Et Pistoletto va conceptualiser alors ce qu'il appelle le troisième paradis, en se référant tout de suite à l'étymologie du mot jardin, en perse ancien, nous dit-il, à l'étymologie du mot paradis, pardon, en perse ancien, qui veut dire le jardin protégé. Le troisième paradis, c'est donc d'abord un signe visuel qu'il a en quelque sorte posé sur la terre comme une sorte de sceau protecteur. C'est aussi, on peut le voir, une sorte de logo publicitaire, hein, publicitaire à entendre au sens noble, et puis une arabesque qui devient la marque d'une sorte de régénération en cours d'après Pistoletto. Et c'est donc un signe qui va être apposé dans des lieux qu'il juge emblématiques et qu'on peut retrouver maintenant un peu aux quatre coins de la planète, bien sûr à Milan, mais aussi au Japon, mais aussi en France, au Louvre et en particulier à Assise. Mais à Assise, disons qu'il a laissé un signe pérenne, alors que dans d'autres endroits, parfois, il a apposé le signe et puis éventuellement l'a enlevé. Alors, le troisième paradis, c'est aussi un texte, c'est la fusion entre le premier et le second paradis, le premier dans lequel les êtres humains étaient totalement intégrés à la nature. Le second, c'est le paradis artificiel développé par l'intelligence humaine à travers un processus qui a atteint aujourd'hui des proportions mondiales. Ce paradis est fait de besoins artificiels, de produits artificiels, de plaisirs artificiels et de toute forme d'artifice. Il s'est formé un véritable monde artificiel qui, avec une progression exponentielle, génère parallèlement aux effets bénéfiques, donc qui ne sont pas niés, des processus irréversibles de dégradation sur une dimension planétaire. Donc, ce qu'il appelle le projet du troisième paradis consiste à forcer l'artifice, à redonner vie à la Terre, à permettre le passage à un troisième niveau de civilisation planétaire. Pistoletto n'est pas un être modeste, indispensable pour assurer au genre humain sa propre survie. Alors, le troisième paradis, c'est aussi une action pauvre. Donc, vous voyez ici, en lien avec l'inventeur de la pauvreté choisie, et qui prend ici la forme concrète donc du jardin. Le maître Pistoletto, vous le voyez là avec sa charrue tirée par des bœufs, et il trace donc sur le terrain un long sillage formé de ces trois grands éléments circulaires. Donc, c'est aussi une mise en œuvre, ce troisième paradis, un labeur effectué par l'artiste lui-même, avec bien sûr la valeur symbolique que prend le geste ancestral. Et c'est aussi une œuvre en forme de jardin-paysage qui va se dessiner, un jardin qu'il plante et qu'il ensemence à Assise. Assise, pourquoi Assise? Bon, lieu mémoriel, je dirais, par antonomase, c'est-à-dire c'est là où coule ce petit fleuve qui va délimiter ce lieu du troisième paradis, le Techo, et dans la boucle de ce petit fleuve se situe justement le bois, ce qu'on appelle le bois de Saint-François, un lieu hautement symbolique puisque c'est justement là qu'est né avec Saint-François, je cite Le Goff, le modèle d'union le plus convaincant entre l'homme et la nature, et je cite encore Le Goff, de celui qui est à l'origine d'un sentiment médiéval de la nature. Donc, le parcours est sous forme de sentier, longe ce petit fleuve confidentiel, quelquefois désigné simplement comme un torrent, et qui est un parcours doublement spirituel. C'est-à-dire que ça peut être à la fois la pérégrination sur les pas de François d'Assise, et aussi, nous invite à le faire Pistoletto, un cheminement vers cette clairière du troisième paradis, dans une conception du monde, selon Pistoletto, qui est une conception spirituelle mais non religieuse. Car, je le cite, « un véritable changement de la société ne peut advenir qu'à la condition d'une réelle transformation de la culture spirituelle ». Et donc, c'est dans ce petit ouvrage dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure, qu'il déclare cela, un petit ouvrage à deux voix, publié en 2005, qui s'appelle « Impliquons-nous », qui fait écho, j'imagine, à « L'indignons-nous » de Stéphane Hessel, et donc un chant à deux voix avec le philosophe français Edgar Morin. Car c'est dans ces lieux que, bien sûr, il est possible de percevoir ce rapport insolite qu'entretient peut-être l'esprit franciscain le plus authentique avec la nature. Selon d'ailleurs une tradition colportée par les rapporteurs de la légende, lorsque l'on demandait aux frères, aux compagnons de François, à ses frères, de montrer le cloître aux voyageurs, ils ouvraient les bras pour indiquer non pas seulement un édifice ou des édifices, mais pour englober tout le paysage entier, environnant, c'est-à-dire qu'ils englobaient dans l'espace sacré le bois, le fleuve, la clairière également. Et donc, je rappelle aussi, et là, je m'en excuse, je cite à nouveau la même chose, mais c'est normal parce que ce sont les phrases clés, le cantique de François quand il rappelle justement que la terre est mère et souligne son rapport privilégié et affectueux avec la nature pour sœur notre mère la terre qui nous porte, nous nourrit et produit la diversité des fruits et les fleurs colorées et les herbes. Alors le troisième paradis finalement c'est surtout un jardin de type land art, un jardin global, c'est-à-dire que là où voudrait finalement, me semble-t-il, où Pistoletto voudrait faire entrer en collision la figure du jardin planétaire avec le jardin du troisième paradis qui se trouve à Assise, le micro-jardin aussi individuel que chacun d'entre nous pourrait cultiver. Et donc, c'est à la fois, comme je le disais, des sentiers, un fleuve, une clairière, et donc ici, vous la voyez, une oliveraie qui compose ce jardin de la régénération. Donc, une oliveraie, des arbres dont l'olivier dont la charge symbolique est quand même assez patente, le fleuve dessine un parcours physique et un parcours spirituel qui évoque un peu le locus amenus et qui sert quelque sorte de paratexte à l'œuvre d'art. C'est-à-dire que il peut aussi être compris comme fleuve d'idées, fleuve de mots, fleuve d'accès qui d'action qui nous mène jusqu'au troisième paradis, qui nous invite à suivre une autre voie, finalement à découvrir la troisième voie qui serait celle de la voie pistolettienne. Parce que pour atteindre ce troisième paradis, il faut passer la place d'Assise où se dresse donc la basilique de Saint-François. On demeure toutefois dans l'enceinte conventuelle, puis on passe dans la forêt de Saint-François pour atteindre le bois de Saint-François. Et c'est donc un lieu, hein, et ici je vous montre aussi le petit fleuve qui délimite donc cet espace à la fois sacré et spirituel. Et donc c'est donc un lieu qui porte un discours, qui induit une sorte de tension entre littérature et art, puisqu'il confronte donc ce cantique du Frère Soleil avec le texte de l'image, j'ai envie de dire, qui est produit par Pistoletto et qui renvoie aussi au texte qu'il a écrit et qui porte le même nom, puisqu'il a théorisé un peu sur le troisième paradis en 2012. Donc au-delà du fleuve, on va parvenir à la clairière plantée d'oliviers et se dresse une tour médiévale d'observation. Et c'est là donc qu'il a réalisé cette œuvre. Et c'est là que le voyageur pèlerin chemine le long des sentiers sur les traces des premiers habitants, sur les traces éventuellement de François d'Assise et de ses premiers compagnons. Donc c'est véritablement un lieu qu'on pourrait appeler originel. Un lieu qui a donc toujours privilégié la parole poétique, et donc c'est pour ça que j'ai pas résisté juste à évoquer quand même le grand poète, le plus grand poète de la littérature italienne, Dante, quand il évoque justement François au chant 11 du paradis. Eh bien, il l'évoque, je dirais, par la géographie, par la description paysagère, et c'est comme ça aussi qu'il fait surgir l'image du séraphique. Donc, il détermine entre le toupie, Noello qui descend de la colline, une pente fertile dévale d'une haute montagne, qui parle de ce lieu, ne disent pas Assis, ce serait dire trop peu, mais Orient, pour finir par nous dire qu'il est en train de nous parler de ses amants qui sont François et la pauvreté. Donc Dante ne mentionne pas directement le lieu et le petit fleuve du Techo qui délimite le parcours pistolettien, mais parce que probablement c'est un tout petit fleuve que parfois simplement on nomme un torrent, mais que moi je voudrais convoquer ici justement peut-être aussi pour son insignifiance, sa non-importance au monde, ses qualités justement minimalistes, typiquement franciscaine. Donc, ce qui unit Pistoletto à Dante aussi, c'est l'emploi déjà du mot paradis. D'ailleurs, Dante, à nouveau dans la Divine Comédie, quand il va évoquer François de retour de son voyage chez le sultan, eh bien, il a eu recours assez finement à une image suggestive. Il parle de l'herbe italique. Il revint cueillir l'herbe de l'Italie sur le dur rocher entre le Tibre et l'Arno. Donc, pour Pistoletto, il s'agit tout autant finalement d'une entité géographique que d'un espace qu'on pourrait dire métaphorique et qui vont, à mon sens, composer un imaginaire synthétique de type spirituel et qu'on pourrait désigner comme un imaginaire de la pauvreté. La source, d'ailleurs, se fait signe visible, elle sépare le sacré du symbolique, l'espace sauvage et humble qui invite à un retour à l'humus, à la terre-mère, justement, dont on a parlé, à cette source d'eau chaste et précieuse, à cette nature dont il ne faut privilégier que la valeur d'usage, comme disait saint François et comme reprend à son compte Agamben dans l'ouvrage que je vous ai déjà cité. Donc, éthique et esthétique de la simplicité, ce sont deux termes qui résument le programme artistique de Pistoletto lorsqu'il invente le troisième paradis, puisque ce paradis, il est justement entendu, compris comme un jardin. Et par-delà l'étymologie, donc à laquelle il fait référence, Il a aussi recours à ce terme, à cette terminologie religieuse, parce qu'il, à mon sens, il apparente la terminologie religieuse à un discours de type mythologique. C'est-à-dire qu'il nous dit que ce sont des mots issus du langage des religions, ce sont ceux qui nous permettent de nous accommoder de l'inconnu, de le nommer. Et puis aussi parce que c'est un langage qui nous appartient, qui est compris de tous, y compris de ceux qui ne sont pas croyants. Et qui nous dit pistoletto, quand il emploie le mot paradis, qui comprend un aspect enchanteur, un aspect merveilleux dont nous avons urgemment besoin en nos temps contemporains. Donc cette œuvre du Land Art conduit le promeneur à découvrir, ce, je le cite, le grand mythe qui mène chacun d'entre nous à assumer une responsabilité personnelle dans la vision globale du monde. Nous sommes les jardiniers, nous dit Pistoletto, nous devons protéger cette planète et prendre soin de la société humaine qui l'habite. Je le cite encore, la Terre est notre jardin, le monde dans son entièreté constitue un jardin à la protection duquel doivent tendre tous nos efforts. Pistoletto donc conçoit l'insertion de cette oliveraie comme un signe positif, un signe équilibré, d'intervention sur la création. Il s'agit pour lui de modeler des contextes paysagers et environnementaux pour leur donner un sens. Le visiteur qu'il appelle le pèlerin du XXIe siècle est donc invité à parcourir à son tour ce petit serpentin sur lesquels donc sont plantés, là vous voyez mieux, deux rangées d'oliviers. Pour devenir, donc, quand on se promène à l'intérieur, au milieu de ces deux rangées, pour devenir lui-même partie intégrante de l'œuvre. Et au centre, il a planté une perche en acier de 12 mètres, symbole, nous dit-il, de l'union entre le ciel et l'eau, cette source qui coule en dessous du terrain, qui passe sous la terre. Donc, ce paradis-jardin se veut un troisième niveau de civilisation planétaire, indispensable pour assurer au genre humain, nous dit-il, sa propre survie. Cette notion de tiers, me semble-t-il, est extrêmement importante. Ce troisième niveau auquel nous convie Pistoletto, et c'est là-dessus que je conclurai, c'est la troisième figure qui est née donc de la recomposition du signe de l'infini, et elle désigne un nouvel espace, un espace tiers, qui nous dit aussi à la fois la finitude du monde terrestre, mais aussi son caractère unique, précieux. Et c'est un peu comme un ventre qui gonfle pour engendrer un monde nouveau, mais aussi, bien sûr, dans un sens un peu plus idéologique, politique, une troisième voie, une troisième approche vers des théories alternatives, et d'ailleurs qu'il nous dispense cela dans ce petit ouvrage, vers aussi des théories altermondialistes, on pourrait dire, qui sont largement revendiquées. Et on peut penser aussi au travail qu'il a fait sur la pomme. Pour Pistoletto, il s'agit de planter, il s'agit de replanter. Et planter, replanter, c'est aussi retisser, recoudre, retisser le lien et recoudre, vous savez, la pomme qui a été mordue par Adam et Ève. Je cite, « La pomme mordue, amputée d'un morceau, vient ensuite signifier la sortie de cet état de nature et la construction d'un monde artificiel. » Ce que propose de donner à voir, de rendre visible Pistoletto, c'est la possible couture que l'on peut faire, c'est-à-dire pour à nouveau retrouver une sorte d'harmonie possible entre nature et artifice. Et donc, quelque part, c'est actualisé, concrétisé sous la forme de cette célèbre pomme qu'on trouve aussi dans différents endroits, et notamment à Milan. Et donc, à partir de cette notion de tiers, Pistoletto cite dans cet ouvrage, cite plusieurs fois, je pense que pour ceux qui s'intéressent au jardin, au paysage, c'est certainement pas un nom inconnu, il cite Gilles Clément, qui est l'inventeur justement du tiers paysage. Et donc, pour moi, il y a eu quelque chose qui a résonné entre ce troisième paradis et ce tiers paysage que nous propose Gilles Clément. Donc la démarche des deux hommes, elle est très différente et par certains aspects, je dirais qu'elle est même radicalement opposée. Pistoletto entend agir sur le jardin terre, alors que Clément nous invite à la déprise, à l'abandon, et il postule une non-action humaine sur la terre. Deux termes unissent toutefois des personnalités aussi différentes hein, que l'artiste et l'ingénieur, c'est justement cette notion de jardin et cette notion de terre. Le jardin dans sa double acception religieuse et vitale, qui est reprise par Pistoletto et par Gilles Clément, mais dans une perspective qui peut être à la fois symbolique et très pratique. Le jardin figure autant, je dirais, un idéal qu'une réalité concrète. Et l'artiste se fait l'intermédiaire, quelque part, entre le registre de la foi et celui de la conviction. Le tiers pour Pistoletto, c'est l'aboutissement d'un processus créatif de type spirituel qui invente ou qui propose d'inventer des solutions nouvelles pour une humanité qu'il considère, je le cite, bridée par sa propre emphase. Et rappelons que pour François, le tiers a aussi un sens, c'est l'autre, c'est le pauvre, c'est le marginal, c'est le délaissé. Ce délaissé, c'est bien ce qui intéresse Gilles Clément dans une optique résolument prosaïque, mais non dénuée de poésie, et qui désigne ces fragments d'indécidés du jardin planétaire. Je cite Gilles Clément, « C'est l'ensemble des lieux délaissés par l'homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui n'est pas à ce jour répertoriée comme richesse. » Cette approche du jardin et du tiers, me semble-t-il, converse vers une inversion des valeurs qui me semble très franciscaine dans l'esprit et très pauvériste dans la pratique artistique. Donc, la richesse, c'est la marge, le territoire délaissé, méprisé, supposé sans valeur. Je cite Gilles Clément, « Cet ensemble n'appartient ni au territoire de l'ombre, ni à celui de la lumière. Il se situe aux marges, en lisière des bois, le long des routes et des rivières, dans les recoins oubliés de la culture, là où les machines ne passent pas. Entre ces fragments de paysage, aucune similitude de forme, un seul point commun, tous constituent un territoire de refuge à la diversité. Partout ailleurs, elle est chassée. Je propose de les assembler sous un terme unique, je propose tiers paysage. » Tiers paysage, précise-t-il, renvoie aussi à l'idée de tiers état, mais pas à tiers monde. Cet espace n'exprime ni le pouvoir, ni la soumission à toute forme de pouvoir. Ce qui fait selon moi écho à François d'Assise lorsque Thomas de Celano, son premier biographe, rapporte justement cette belle phrase déjà citée, mais je ne renonce pas à vous la redire, lorsque François recommandait aux frères jardiniers de ne pas tout planter en légumes, mais de laisser une partie du terrain pour les plantes vivaces qui produiraient en leur temps nos sœurs, les fleurs. Ce qui unit selon moi l'artiste et le botaniste, dans le cas de Gilles Clément, c'est cette approche poétique commune, une sorte de rhétorique de l'enchantement. Notons aussi que Gilles Clément choisit à son tour la forme du manifeste. Le tiers paysage est un manifeste, comme s'il y avait une urgence à dire et aussi à montrer et peut-être à dire. Il nous dit qu'il s'agit d'instruire l'esprit du non, approcher la diversité avec étonnement. Présenter le tiers paysage, fragment indécidé du jardin planétaire, non comme un bien patrimonial, mais comme un espace commun du futur. Il nous dit encore qu'il faut ménager les sites qui sont frappés de croyances comme indispensable territoire d'errement de l'esprit. Il me semble que sur ce point-là, sur cette poétique, on pourrait dire, du jardin, se rejoignent, mais avec des points de vue très éloignés, un Pistoletto et un Gilles Clément. Donc ici, j'ai trouvé quelques représentations donc de ce tiers paysage qui ressurgit entre des parois de béton, c'est-à-dire là où on ne l'attend pas, là où on n'a pas planté, là où on n'a pas décidé qu'il y aurait un jardin ou un paysage. Donc, l'idée se fait, et là cette fois je conclue vraiment, d'une possible diffusion d'une forme de nourriture de la pensée que l'on pourrait nommer le jardin spirituel. Cette œuvre postmoderne, et là je me réfère à Pistoletto, détermine un nouvel espace sacré et s'affirme peut-être aussi comme une sorte de réservoir d'images, réservoir mémoriel, lieu de la Renaissance, en ce qu'il retrace aussi quelque part l'histoire de notre humanité. et surgit alors une figure un peu synergique. La forme de l'infini, d'ailleurs, est autosuffisante, elle est fermée sur elle-même, mais aussi elle structure l'imagination de son auteur, et à la fois, elle se régénère continuellement, puisqu'elle est nourrie par une parole, qui est aussi, à mon avis, la parole de François d'Assise, qui, quelque part, a déjà anticipé les discours de la modernité par les œuvres, et qui continue, disons, à irriguer par sa pensée les œuvres des artistes qui s'en emparent. Parce que, nous dit Pistoletto, il faut repartir de l'enfance, il faut regarder derrière nous, revenir à la simplicité des origines pour dessiner peut-être la forme idéale d'un futur dans le passé. Je vous remercie pour votre écoute.